Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En cette année 2017, nous avons fêté le centenaire des apparitions de Fatima, voulue par Dieu pour répondre aux erreurs du communisme. Dans le même ordre de choses, celui de la lutte entre la Vierge Marie et le communisme, un autre anniversaire plus discret mérite également de retenir notre attention, c'est celui des apparitions de l'île Bouchard, le 8 décembre 1947, il y a donc tout juste 70 ans. En 1947, la France sort à peine de la guerre. Elle est ruinée, désorganisée, minée par les divisions et par une guerre civile endémique. Les communistes qui ont profité de la libération pour s'introduire dans le gouvernement viennent d'en être expulsés, mais ils sont en passe de s'emparer du pouvoir. Le 2 octobre, le secrétaire général du Parti communiste, Maurice Thorez, déclare au cours d'un meeting politique « Il est temps d'imposer un gouvernement démocratique où la classe ouvrière et son parti exercent enfin un rôle dirigeant ». Et cette déclaration déclenche une suite de grèves qui paralysent la France pendant plus d'un mois. Les mines du Nord, les aciéries, les arsenaux, les usines, les centraux téléphoniques sont occupés par la CGT. Le ravitaillement n'est plus assuré. Plus de travail, plus de pain, plus de chauffage. Dans la nuit du 2 au 3 décembre, les communistes déboulonnent les rails de l'express Paris-Tourcoing qui déraille. Le bilan est lourd, 24 morts et une trentaine de blessés. Et ces attentats meurtriers se multiplient sur l'ensemble du territoire. En 15 jours, on déplore 27 sabotages. La grève générale prend une tournure insurrectionnelle. Des émeutes éclatent en plusieurs villes. La France est au bord de la révolution et les Français ont peur. Le gouvernement est débordé. Il n'a plus les moyens d'enrayer la catastrophe. Tout le monde s'attend à ce que la France bascule dans le camp soviétique et que l'armée rouge déferle sur le pays. Or, le mardi 9 décembre au soir, à la stupéfaction générale, le Comité national de grève de Paris ordonne la reprise du travail dans un communiqué transmis à la radio. Cette capitulation est tellement inattendue que dans un premier temps, personne ne veut y croire. Et pourtant, aucune attaque n'est lancée, l'opération militaire prévue est annulée, et le 10 décembre au matin, les 3 millions de grévistes retournent au travail. Et le calme revient peu à peu dans le pays. Que s'est-il donc passé? Pour le comprendre, il faut revenir au jour précédent, le lundi 8 décembre 1947, et se transporter dans un petit bourg de Touraine, proche de Chinon, appelé l'île Bouchard. Ce jour-là, dans la petite école Saint-Gilles, tenue par les sœurs Jeanne de Lanoue, vers l'heure de midi, la cloche sonne la fin des classes du matin. Et avant de congédier les 70 petites filles, le temps du déjeuner, la sœur Saint-Léon leur dit « Aujourd'hui, c'est la fête de l'Immaculée Conception », ce serait bien que les petites filles qui passent devant l'église pour venir à l'école s'arrêtent pour dire une prière à la Sainte Vierge pour la France. Jacqueline Aubry, qui a 12 ans, sa petite sœur Jeannette, qui a 7 ans, leur petite cousine Nicole, qui a 10 ans, n'ont pas oublié la recommandation. Et quand l'heure est arrivée de retourner à l'école après le repas, elles pénètrent dans l'église Saint-Gilles et se dirige par la vieille nef romane vers l'autel de la Vierge pour dire une dizaine de chapelets. Jacqueline a d'ailleurs l'habitude de faire ainsi. Il ne se passe pas de jour sans qu'elle vienne prier la Sainte Vierge à l'église, seule ou avec d'autres fillettes qu'elle entraîne. Elle a appris cela toute petite, au contact d'une vieille demoiselle, Mademoiselle Grandin, à qui sa maman la confiait quand elle était trop accaparée par les tâches de la pâtisserie familiale. Et Jacqueline confiera plus tard, « C'est avoir prié cette vieille demoiselle que j'ai appris à aimer Jésus et Marie. » Ce 8 décembre, donc vers 13 heures, Les trois enfants sont agenouillés devant l'autel de la Vierge, que surmonte une statue de Notre-Dame des Victoires et qu'éclaire, depuis la gauche, un vitrail représentant l'apparition de l'Immaculée Conception à Lourdes. Vous voyez que la Vierge a bien choisi son cadre. Et soudain, au quatrième « Je vous salue Marie », une grande lumière, vive mais non éblouissante, dans l'angle du mur à gauche de l'autel. Au milieu de cette lumière se tient une belle dame, entourée de rayons d'or qui font comme une grotte, encore un rappel de Lourdes. La dame semble âgée de 16 ou 17 ans. Elle est habillée comme à Lourdes, d'une robe blanche avec une ceinture bleue et d'un grand voile blanc. Elle a les mains jointes et un chapelet monté sur or pend à son bras droit. À ses pieds s'alignent 5 roses de couleur rose. C'est une claire allusion au rosaire. Avec cette inscription, « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Et à droite de la dame se tient un ange, couleur lumière, diront les enfants. Il a un genou en terre, la main droite sur le cœur. Il est en contemplation et en admiration devant la dame. Ce sont les termes mêmes des enfants. Et il lui présente un lys formé de 3 fleurs et de 3 boutons. Nicole et Jeannette, les deux plus petites, qui s'étaient baissées pour ramasser la pochette de chapelet de Jeannette qui était tombée par terre, se redressent et voient à leur tour la belle dame. Nicole s'émerveille, comme l'avait fait la petite Jacinthe de Fatima. « Oh, que c'est beau ! Oh, la belle dame !» Quant à Jeannette, elle est surtout frappée par l'ange. « Oh, le beau ange !» dit-elle dans son langage enfantin. Et le soir, d'ailleurs, avec ces mots maladroits, elle confiera à sa maman, qui a du mal à la croire, « Tu sais, maman, je l'ai vu, l'ange, j'ai même vu ses œils. » Comment ne pas penser à cette parole de notre Seigneur, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Eh bien, les petites voyantes avaient vu face à face l'un de ces anges qui voit continuellement la face de Dieu. Les trois petites, blotties les unes contre les autres, ne peuvent détacher leur regard de la belle dame qui leur sourit. Après quelques instants, cependant, un peu effrayées, elles se sauvent et courent interpeller dans la rue d'autres enfants. Elles trouvent leur petite amie Laura, qui a 8 ans, et sa sœur Sergine, qui a 13 ans, mais qui, elle, ne verra rien. Alors, elles rentrent précipitamment dans l'église. La dame est toujours là. Les fillettes disent une autre dizaine de chapelets, suivies de l'invocation répétée 3 fois, « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Et elle voit la dame égrener son chapelet en même temps qu'elle, et le mouvement silencieux de ses lèvres accompagne la première partie de chaque « Je vous salue Marie ». L'ange fait de même, mais lui, il s'arrête après les premiers mots « Je vous salue Marie ». Et au bout d'un quart d'heure, l'apparition s'efface progressivement dans une poussière lumineuse. C'est l'heure de retourner à l'école. Les enfants y vont donc. Mais en chemin, Jacqueline est saisie par l'évidence. Cette belle dame, évidemment, c'est la Sainte Vierge. C'est l'Immaculée Conception. Alors elle s'en ouvre aux sœurs. Monsieur le curé est également mis au courant. Et bientôt, la nouvelle a fait le tour du village. Mais à ce moment-là, personne ne veut croire les enfants. N'y tenant plus, peu avant 14 heures, les fillettes quittent l'école et retournent à l'église. Et la belle dame est à nouveau là, qui les attend. Ainsi que l'ange. Rien ne diffère de l'apparition précédente. Bientôt, cependant, le visage de la Vierge se voile de tristesse et elle prononce sa première phrase. « Dites aux petits-enfants de prier pour la France, car elle en a grand besoin. » Cette demande, c'est le cœur du message de l'île Bouchard. Notre-Dame vient demander des prières. Et elle veut spécialement que les enfants prient, car leur prière est toute puissante sur le cœur de Dieu. Quant à l'intention qu'elle recommande, c'est la France qui en a grand besoin. D'ailleurs, le lendemain, 9 décembre, dans une autre apparition, elle insistera « Priez pour la France, qui, ces jours-ci, est en grand danger. » Et elle ajoutera aussitôt « Allez dire à monsieur le curé de venir à 2 heures, d'amener les enfants et la foule pour prier. » Vous le voyez, alors que humainement la situation du pays est désespérée, Notre-Dame ne se désintéresse pas du sort de la fille aînée de l'Église. Et comme elle l'avait déjà fait à Pontmain, elle vient lever une armée de petits-enfants pour que, sous sa propre conduite à elle, leurs prières obtiennent la victoire contre les ennemis de Dieu. Alors, toujours ce 8 décembre, donc peu après 14 heures, les deux plus petites demandent à la Vierge « Madame, est-ce que vous êtes notre maman du ciel ?»« Oui, répond-elle, je suis votre maman du ciel. » C'est donc bien la Vierge Marie. Cette simple réponse, d'ailleurs, est riche de sens. Notre-Dame se déclare notre mère et elle est du ciel, comme elle l'avait également dit au voyant de Fatima. Et pour nous qui vivons au milieu d'un monde matérialiste et jouisseur, qui rejette Dieu et méprise le surnaturel, c'est là le rappel de l'unique nécessaire. Nous sommes faits pour le ciel, et c'est le ciel qui tient tout dans sa main et qui gouverne toutes choses, quoi qu'en pensent les hommes. À la suite des deux petites, Jacqueline interroge à son tour « Quel est l'ange qui vous accompagne ?» Et c'est l'ange qui répond lui-même « Je suis l'ange Gabriel, l'ange de l'Annonciation. » Ce seront d'ailleurs ses seuls mots, ses seules paroles au cours des apparitions. Alors la Vierge Marie invite les enfants à s'approcher, elle leur présente sa main et dit « Donnez-moi votre main à embrasser ». Jacqueline et Nicole, debout sur la pointe des pieds, présentent chacune leur main à la Vierge qui l'embrasse. Puis Jacqueline soulève à tour de rôle, Jeannette et Laura, qui sont trop petites, et Notre-Dame pose également ses lèvres sur leurs mains. Et les enfants constateront, en sortant de l'église, que la trace du baiser de Notre-Dame reste imprimée sur leurs phalanges pendant plusieurs minutes. Avant de disparaître, comme la première fois, dans un nuage de poussière d'argent, l'expression est des enfants, la Vierge demande aux fillettes de revenir le soir à 5 heures et le lendemain à 1 heure. Il n'est pas possible de rapporter ici le détail de toutes les apparitions suivantes. Notre-Dame reviendra chacun des 6 jours suivants, pendant tout l'octave de la fête de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire jusqu'au dimanche 14 décembre. Mais à défaut d'un récit complet, tâchons au moins de relever, dans l'ensemble des faits et des paroles qui marquent ces apparitions successives, les plus importants et les plus riches d'enseignements. Le 9 décembre, donc le lendemain, au pied de la Vierge, les mots « Je suis l'Immaculée Conception » ont remplacé l'invocation « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». La Vierge de l'île Bouchard, c'est donc, tout comme à Lourdes, l'Immaculée Conception, à qui Dieu a conféré, vous le savez, le pouvoir d'écraser la tête du serpent ennemi. C'est Notre-Dame de la Victoire. C'est également le mardi 9 qu'apparaît sur la robe de la Vierge le mot « Magnificat ». Les enfants ne parviendront à le lire que le 12, parce que les mains jointes de Notre-Dame cachent jusqu'à ce moment une partie des lettres. Ce mot traduit la victoire remportée par Marie. C'est en effet, nous l'avons dit tout à l'heure, le 9 au soir, que le mouvement de grève insurrectionnelle cesse brusquement. Et à sa dernière apparition, le dimanche 14, en action de grâce, la Vierge fera chanter le Magnificat par toute la foule assemblée dans l'église. Ce même 9 décembre, Notre-Dame demande aux enfants de baiser la croix de son chapelet, une belle croix toute dorée. Ce geste est significatif. Marie veut qu'on embrasse généreusement la croix de Jésus. Et cette croix, qui est placée au centre du chapelet, parce qu'elle est au centre de la vie de Jésus et de Marie, doit être aussi au centre de nos vies. Et dans le même sens, le 14 décembre, donc à la dernière apparition, à Jacqueline qui pose la question « Que faut-il faire pour consoler notre Seigneur de la peine que lui font les pécheurs, la Vierge répond « Il faut prier et faire des sacrifices ». Et elle demande aux enfants de réciter une dizaine de chapelets, les bras en croix. Vous le voyez, c'est exactement le même enseignement qu'à Fatima. Les pécheurs constituent d'ailleurs l'une des principales préoccupations de Notre-Dame. À trois reprises, au cours des apparitions, elle demande aux enfants « Priez-vous pour les pécheurs ». Et le 12 décembre, elle insiste « Surtout, priez beaucoup pour les pécheurs ». C'est encore le 9 décembre que la Vierge trace sur elle un signe de croix très lent, majestueux, que les fillettes reproduisent sur elles-mêmes en même temps. Jacqueline fera plus tard ce commentaire. Elle a voulu nous dire que le signe de croix est une grande et belle prière. C'est une bonne leçon que nous ne devons pas oublier. À deux reprises, le 10 et le 12 décembre, la dame demande aux voyantes de baiser sa main, comme elle leur avait fait baiser la croix de son chapelet. Il faut sans doute voir dans ce geste une expression de la médiation universelle de Notre-Dame. Toutes les grâces passent par ses mains, comme elles viennent toutes de la croix de Jésus. Et puis enfin, aux enfants qui lui demandent de faire un miracle pour que les gens croient, la Vierge répond le 10 décembre, « Je ne suis pas venue ici pour faire des miracles, mais pour vous dire de prier pour la France. » Ainsi, ce qui importe, ce qui est le plus urgent, ce ne sont pas les miracles, mais que l'on prie. Toutefois, en mère compatissante, Notre-Dame va tout de même faire un miracle en faveur de Jacqueline. L'enfant souffrait d'une forte myopie et d'une conjonctivite purulente. Or, le 11 décembre au matin, elle constate que ses yeux ne sont plus collés et que sa vue est normale et qu'elle n'a plus besoin de ses lunettes. Cette guérison convaincra d'ailleurs les parents de Jacqueline et beaucoup d'habitants de la vérité des apparitions. À sa dernière apparition, le 14 décembre, la Vierge fera un autre prodige. Elle donnera un autre signe de sa présence. Avant de partir, définitivement, elle enverra un vif rayon de soleil. Ce rayon que toutes les personnes présentes verront, le seul rayon de soleil de cette journée très couverte, éclairera l'église pendant quelques minutes. Et il contournera même un pilier pour éclairer le lieu de l'apparition. Signe de la puissance de la Dame en lumière qui, 30 ans plus tôt, avait fait danser le soleil à Fatima. Pour terminer, demandons-nous quelles leçons tirer de ces faits, à la fois si simples et si profonds. Ce qui saute aux yeux, tout d'abord, c'est la disproportion entre les moyens employés et le résultat obtenu. 4 petits-enfants, par leur seule prière, ont changé le cours des événements. C'est la parfaite illustration de ce que saint Paul enseignait déjà aux Corinthiens. Ce qu'il y a de plus fou dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre les sages. Et ce qu'il y a de plus faible dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre les forts. Assurément, les voies de Dieu ne sont pas celles du monde, et il importe que nous nous en souvenions. On peut encore se demander pourquoi la Vierge a-t-elle choisi l'île Bouchard. Il est vrai que sainte Jeanne d'Arc, la messagère de la politique divine, était venue prier dans cette même église Saint-Gilles le 6 mars 1429, quelques heures avant d'aller trouver le dauphin à Chinon pour lui faire part de sa mission. Mais c'est Notre-Dame qui a elle-même donné la réponse à cette question. Le jeudi 11 décembre, Jacqueline lui demanda « D'où nous vient cet honneur que vous veniez en l'église Saint-Gilles ?» Et la Vierge répondit, « C'est parce qu'il y a ici des personnes pieuses et que Jeanne de Lanoue y est passée. » Jeanne de Lanoue, qui vécut très saintement et consacra sa vie aux soins des pauvres, était en effet venue à l'île Bouchard en 1755 pour y installer une maison de la congrégation qu'elle avait fondée. En tout cas, pour nous, retenons la leçon, la Vierge aime à se tenir et à exercer sa bienfaisance dans les lieux sanctifiés par des personnes pieuses. C'est un encouragement à être nous-mêmes les plus pieux et les plus saints possibles. Mais la principale leçon de l'île Bouchard n'est pas là. C'est la nécessité de la prière. Ce que la belle dame est venue rappeler aux quatre enfants, et à travers eux à nous tous, c'est la nécessité de la prière. La prière est toute puissante, on en a là la preuve. Elle est le levier qui obtient de Dieu tous les biens dont nous avons besoin. Car si l'île Bouchard est bien la preuve que Dieu est le maître de l'histoire et qu'il anéantit ses ennemis quand il veut et comme il veut, d'un souffle de sa bouche, comme dit le prophète Isaïe, c'est aussi l'illustration que, ordinairement, il ne le fait que si on le lui demande par la prière fervente. Dieu veut nous donner ses grâces et ses bienfaits, mais il ne veut pas les donner sans qu'on les lui demande, et ajoutons même, sans qu'on les lui demande par l'intermédiaire de sa mère. Pour cette raison, qu'en les lui demandant, nous nous mettons dans les dispositions requises pour bien les recevoir. C'est le plan de Dieu. Quelles sont donc les prières qui plaisent tout spécialement à Dieu et à sa mère? Nous voyons à l'île Bouchard, c'est d'abord le « Je vous salue Marie ». Le « Je vous salue Marie » non seulement récité, mais aussi chanté. Cette prière tient une place toute spéciale dans ses apparitions. Dès le 9 décembre, la Vierge demande aux enfants « Chantez le « Je vous salue Marie », ce cantique que j'aime bien ». Et les fois suivantes, elle réclame à plusieurs reprises « Chantez le « Je vous salue Marie ». Et les enfants s'exécutent pour faire plaisir à la dame qui le demandait, dira Jacqueline. Avec le « Je vous salue Marie », bien sûr, il faut citer le chapelet. Plusieurs fois, la Vierge demande aux enfants et à la foule de réciter une dizaine de chapelets. C'est l'écho de la parole de Notre-Dame de Fatima « Je veux que l'on continue de réciter le chapelet tous les jours ». Et puis enfin, il est à noter qu'à l'île Bouchard, l'invocation de la médaille miraculeuse est particulièrement à l'honneur. « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Tantôt les fillettes la récitent d'elles-mêmes, tantôt la Vierge commence « Ô Marie conçue sans péché » et les enfants répondent « Priez pour nous qui avons recours à vous. » La prière tient une telle place dans le message de l'île Bouchard que les fidèles ont depuis pris l'habitude d'y honorer la Vierge sous le beau titre de Notre-Dame de la prière et de l'invoquer par cette formule « Notre-Dame de la prière, apprenez-nous à prier ». Cette demande que les apôtres adressaient à Jésus, nous l'adressons maintenant à la Vierge Marie. « Apprenez-nous à prier. Apprenez-nous cet art à la fois si simple et si difficile de la prière. » Apprenez-nous qu'il n'y a rien de plus nécessaire, rien de plus urgent. Apprenez-nous à bien dire nos prières, à en faire des actes d'amour, à être des âmes de prière et à faire que nos vies deviennent une prière continuelle. Eh bien, c'est la grâce que nous demanderons tout spécialement ce soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.